Nous ne partîmes que tard, parce qu'il fallut faire fondre de la neige pour le déjeuner et pour la route. Elle était bue aussitôt que fondue, et ces gens qui gardaient religieusement le vin que j'avais fait porter me dérobaient continuellement l'eau que je mettais en réserve. Nous traversâmes d'abord le second plateau à l'entrée duquel nous avions passé la nuit. De là, nous montâmes au troisième, que nous traversâmes aussi, et nous vîmes en une demi-heure au bas de la grande pente par laquelle, en tirant à l'est, on monte sur le rocher qui forme l'épaule gauche de la cime du Mont Blanc. En commençant cette montée, j'étais déjà bien essoufflé par la rareté de l'air. Cependant, un moment employé à reprendre haleine de 30 en 30 pas, mais sans m'asseoir, m'aidait à respirer, et je vins en 40 minutes à l'entrée de l'avalanche qui était tombée la nuit précédente et que nous avions entendue de notre tente. Là, nous nous arrêtâmes tous pendant quelques moments, dans l'espérance qu'après avoir bien reposé nos jambes et nos poumons, nous pourrions traverser l'avalanche un peu plus vite et tout d'une haleine. Mais cela se trouva impossible. Le genre de fatigue qui résulte de la rareté de l'air est absolument insurmontable. Quand elle est à son comble, le péril le plus éminent ne vous ferait pas faire un seul pas de plus. Mais je rassurai mes guides, en leur disant que cet endroit était précisément le moins dangereux parce que toutes les neiges caduques des hauteurs qui dominent s'en étaient déjà détachées. Au-delà de cette avalanche, la pente devenait continuellement plus rapide et aboutissait sur notre gauche à un affreux précipice. Il fallut franchir une fente assez large et dont le passage était gêné par un roc de glace qui forçait à se rapprocher du bord de la pente. Les premiers guides avaient entaillé de pas en pas avec une hache la surface dure de la neige, mais ils avaient fait les pas trop grands, en sorte que pour atteindre l'entaille, il fallait faire une enjambée dans laquelle on courait le risque de la manquer et de glisser irrémissiblement en bas. Ensuite, vers le haut, la surface gelée se trouva plus mince. Alors elle se cassait sous nos pas, et il se trouvait au-dessous 8 ou 9 pouces de neige en farine, qui reposait sur une seconde croûte de neige dure. On enfonçait ainsi jusqu'à mi-jambe, après quoi l'on glissait du côté du précipice contre lequel on n'était retenu que par la croûte supérieure, qui se trouvait ainsi chargée d'une grande partie du poids de nos corps. Et si elle s'était cassée, on aurait infailliblement glissé jusqu'au bas. Mais je ne m'occupais absolument point du danger. Mon parti était pris. J'étais décidé à aller en avant, tant que mes forces me le permettraient. Je n'avais d'autre idée que celle d'affermir mes pas et d'avancer. On dit que quand on passe au bord d'un précipice, il ne faut point le regarder. Et cela est vrai, jusqu'à un certain point. Mais voici sur cet objet le résultat de ma longue expérience. Avant de s'engager dans un mauvais pas, il faut commencer par contempler le précipice, et s'en rassasier, pour ainsi dire, jusqu'à ce qu'il ait épuisé tout son effet sur l'imagination et qu'on puisse le voir avec une espèce d'indifférence. Il faut en même temps étudier la marche que l'on tiendra, et marquer, pour ainsi dire, les pas que l'on doit faire. Ensuite, on ne pense plus au danger, et l'on ne s'occupe plus que du soin de suivre la route que l'on s'est prescrite. Mais si l'on ne peut pas supporter la vue du précipice et s'y habituer, il faut renoncer à son entreprise. Car quand le sentier est étroit, il est impossible de regarder où l'on met le pied sans voir en même temps le précipice. Et cette vue, si elle vous prend à l'improviste, vous donne des éblouissements et peut-être la cause de votre perte. J'employais là et dans d'autres passages dangereux la manière de se faire aider par les guides qui me paraît tout à la fois la plus sûre pour celui qui l'emploie et la moins incommode pour ceux qui lui aident. C'est d'avoir un bâton léger, mais solide, de 8 à 10 pieds de longueur. Deux guides, placés l'un devant vous, l'autre derrière, tiennent le bâton du côté du précipice, l'un par un bout, l'autre par l'autre. Et vous, vous marchez au milieu, avec cette barrière ambulante sur laquelle vous vous soutenez au besoin. Cela ne gêne ni ne fatigue les guides en aucune manière, et peut servir à les soutenir eux-mêmes au cas que l'un d'eux vint à glisser ou à tomber dans une fente. C'est dans cette attitude que monsieur le chevalier de Méchel m'a représenté dans la grande planche qu'il a fait graver de notre caravane au milieu des glaces. Enfin, en 2 heures et demie de marche, à compter de l'endroit où nous avions couché, nous atteignîmes le rocher que j'appelle l'épaule gauche ou le second escalier du Mont Blanc. Là, s'ouvrit à mes yeux un horizon immense et tout à fait nouveau pour moi, car la cime étant à notre droite, rien ne nous dérobait l'ensemble des Alpes du côté de l'Italie, que je n'avais jamais vu d'une aussi grande hauteur. Là, j'eus la satisfaction de me voir assuré d'atteindre la cime, puisque la montée qui me restait à faire n'était ni rapide ni dangereuse. Nous mangeâmes un morceau, assis sur le bord de cette magnifique terrasse, mais le pain et la viande que j'avais fait porter s'étaient gelés à fond. Je me remis en marche, il était environ 9 heures. Comme j'avais mesuré de Chamonix les hauteurs des différentes parties de la montagne, je savais que je n'avais plus qu'environ 150 toises à monter, et cela par une pente qui n'était que de 20 à 29 degrés, sur une neige assez ferme et pourtant nullement glissante, exempte de crevasses, éloignée des précipices. J'espérais donc d'atteindre la cime en moins de 3/4 d'heure. Mais la rareté de l'air me préparait des difficultés plus grandes que je n'aurais pu le croire. Sur la fin, j'étais obligé de reprendre haleine à tous les 15 ou 16 pas. Je le faisais le plus souvent debout, appuyé sur mon bâton, mais à peu près de 3 fois l'une, il fallait m'asseoir. Ce besoin de repos était absolument invincible. Si j'essayais de le surmonter, mes jambes me refusaient leur service. Je sentais un commencement de défaillance, et j'étais saisi par des éblouissements tout à fait indépendants de l'action de la lumière, puisque le crêpe double qui me couvrait le visage me garantissait parfaitement les yeux. Comme c'était avec un vif regret que je voyais ainsi passer le temps que j'espérais consacrer sur la cime à mes expériences, je fis diverses épreuves pour abréger ces repos. J'essayais par exemple de ne point aller au terme de mes forces et de m'arrêter un instant à tous les 4 ou 5 pas, mais je n'y gagnais rien. J'étais obligé au bout de 15 ou 16 pas à prendre un repos aussi long que si je les avais faits de suite. Il y avait même ceci de remarquable, c'est que le plus grand malaise ne se fait sentir que 8 ou 10 secondes après qu'on a cessé de marcher. La seule chose qui me fit du bien et qui augmenta mes forces, c'était l'air frais du vent du nord, lorsqu'en montant, j'avais le visage tourné de ce côté-là et que j'avalais à grands traits l'air qui en venait, je pouvais sans m'arrêter faire jusqu'à 25 ou 26 pas. À peu près à la moitié de cette montée, on passe auprès de 2 petits rochers saillants au-dessus de la neige. La dernière partie de la montée entre ces petits rocs et la cime fut, comme on doit le présumer, la plus fatigante pour la respiration. Mais j'atteignis enfin ce but si longtemps désiré. Nous mîmes 2 heures depuis le dernier rocher jusqu'à la cime, et il en était 11 quand nous y parvînmes. Comme pendant les 2 heures que me prit cette pénible ascension j'avais eu toujours sous les yeux à peu près tout ce que l'on voit de la cime, cette arrivée ne fut pas un coup de théâtre. Elle ne me donna même pas d'abord tout le plaisir que l'on pourrait imaginer. Mon sentiment le plus vif, le plus doux, fut de voir cesser les inquiétudes dont j'avais été l'objet, car la longueur de cette lutte, le souvenir et la sensation même encore poignante des peines que m'avait coûté cette victoire me donnaient une espèce d'irritation. Au moment où j'eus atteint le point le plus élevé de la neige qui couronne cette cime, je la foulai aux pieds avec une sorte de colère plutôt qu'avec un sentiment de plaisir. D'ailleurs, mon but n'était pas seulement d'atteindre le point le plus élevé, il fallait surtout y faire les observations et les expériences qui seules donnaient quelques prises à ce voyage, et je craignais infiniment de ne pouvoir faire qu'une petite partie de ce que j'avais projeté, car j'avais déjà éprouvé, même sur le plateau où nous avions couché, que toute observation faite avec soin fatigue dans cet air rare, et cela parce que sans y penser, on retient son souffle, et que comme il fallait là suppléer à la rareté de l'air par la fréquence des inspirations, cette suspension causait un malaise sensible, et j'étais obligé de me reposer et de souffler après avoir observé un instrument quelconque, comme après avoir fait une montée rapide. Cependant, la vue des montagnes me donna une vive satisfaction. Mes premiers regards furent sur Chamonix, où je savais ma femme et ses 2 sœurs, l'œil fixé au télescope, suivant tous mes pas avec une inquiétude trop grande sans doute, mais qui n'en était pas moins cruelle, et j'éprouvais un sentiment bien doux et bien consolant lorsque je vis flotter l'étendard qu'elle m'avait promis d'arborer au moment où, me voyant parvenu à la cime, leur crainte serait au moins suspendue. Je pus alors jouir sans regret du grand spectacle que j'avais sous les yeux. Une légère vapeur suspendue dans les régions inférieures de l'air me dérobait à la vérité la vue des objets les plus bas et les plus éloignés, tels que les plaines de la France et de la Lombardie. Mais je ne regrettais pas beaucoup cette perte. Ce que je venais voir, et ce que je vis avec la plus grande clarté, c'est l'ensemble de toutes les hautes cimes dont je désirais depuis si longtemps de connaître l'organisation. Je n'en croyais pas mes yeux. Il me semblait que c'était un rêve, lorsque je voyais sous mes pieds ces cimes majestueuses, ces redoutables aiguilles, le Midi, l'Argentière, le Géant, dont les bases mêmes avaient été pour moi d'un accès si difficile et si dangereux. Je saisissais leurs rapports, leurs liaisons, leurs structures, et un seul regard levait des doutes que des années de travail n'avaient pu éclaircir. Pendant ce temps-là, mes guides tendaient ma tente, et y dressaient la petite table sur laquelle je devais faire l'expérience de l'ébullition de l'eau. mais quand il fallut me mettre à disposer mes instruments et à les observer, je me trouvais à chaque instant obligé d'interrompre mon travail pour ne m'occuper que du soin de respirer. Si l'on considère que le baromètre n'était là qu'à 16 pouces une ligne, et qu'ainsi l'air n'avait guère plus de la moitié de la densité ordinaire, on comprendra qu'il fallait suppléer à la densité par la fréquence des inspirations. Lorsque je demeurais parfaitement tranquille, je n'éprouvais qu'un peu de malaise, une légère disposition au mal de cœur. Mais lorsque je prenais de la peine ou que je fixais mon attention pendant quelques moments de suite, et surtout lorsqu'en me baissant je comprimais ma poitrine, il fallait me reposer et halter pendant 2 ou 3 minutes. Mes guides éprouvaient des sensations analogues. Ils n'avaient aucun appétit et, à la vérité, nos vivres, qui s'étaient tous gelés en route, n'étaient pas bien propres à l'exciter. Ils ne se souciaient pas même du vin et de l'eau-de-vie. En effet, ils avaient éprouvé que les liqueurs fortes augmentent cette indisposition, sans doute en accélérant encore la vitesse de la circulation. Il n'y avait que l'eau fraîche qui fit du bien et du plaisir, et il fallut du temps et de la peine pour allumer du feu sans lequel nous ne pouvions point en avoir. La cime du Mont Blanc est une espèce de dos d'âne ou d'arête allongée, dirigée du levant au couchant, à peu près horizontale dans sa partie la plus élevée et descendante à ses deux extrémités. Cette arête est très étroite, presque tranchante à son sommet, au point que deux personnes ne pourraient pas y marcher de front. Mais elle s'élargit et s'arrondit en descendant du côté de l'est, et elle prend du côté de l'ouest la forme d'un avant-toit, saillant au nord. Toute cette sommité est entièrement couverte de neige. On n'en voit sortir aucun rocher, si ce n'est à 60 ou 70 toises au-dessous. Des deux faces de l'arête, celle au nord descend rapidement et finit par aboutir à d'affreux précipices. Au midi, au contraire, cette pente est fort douce, et plus bas elle forme un berceau en se relevant en sens contraire, du côté du sud, où elle va former au-dessus de l'allée blanche une pointe assez élevée, sous laquelle est un avant-toit de neige, et sous cet avant-toit sont les rochers que je voyais du haut du Cramont et que je prenais pour la cime parce qu'ils me cachaient la véritable cime enneigée. Cette saillie au midi est cause que quand on regarde la cime du Mont Blanc de profil, du côté de l'est ou de l'ouest, du Saint-Bernard par exemple, ou de Lyon, on voit au-dessous de cette cime une espèce de crochet ou de nez retroussé qui se relève du côté du midi. La première chose qui me frappa dans le spectacle de l'ensemble des hautes sommités que j'avais sous les yeux du haut de la plus élevée d'entre elles, c'est l'espèce de désordre qui règne dans leur disposition. On voit de la cime du Mont Blanc qu'au midi, du côté de l'Italie, il y a beaucoup plus de hautes sommités qu'au nord, du côté de la Savoie. Aussi le spectacle est-il beaucoup plus beau et plus intéressant du côté de l'Italie, car les montagnes secondaires au nord, terminées par la ligne bleue et monotone du Jura, ne présentent rien de grand ni de varié. Et nos plaines, notre lac même, vu obliquement au travers des vapeurs de l'horizon, ne présente que des teintes faibles et des objets peu distincts. Au contraire, du côté du midi, l'horizon couvert à perte de vue de hautes cimes variées dans leur forme et dans celle de leur groupe, mélangées de neige et de rochers et entrecoupées de vallées verdoyantes, présente un ensemble également singulier et magnifique. Mais surtout, les aiguilles et les glaciers de tous les environs du Mont Blanc faisaient pour moi le spectacle tout à la fois le plus ravissant et le plus instructif. Il soufflait un vent du nord assez vif, qui rendait le froid incommode sur le tranchant de la sommité. Mais dès qu'on descendait au-dessous de l'arête, du côté du midi, on jouissait d'une température agréable. La plupart de mes guides dormaient ou se reposaient au soleil, sur leurs sacs étendus sur la neige. C'est un fait connu de tous ceux qui ont atteint les cimes des montagnes élevées, que le ciel y paraît d'un bleu plus foncé que dans la plaine, et sur le Mont Blanc, il était tout près du bleu de roi le plus foncé. Nous ne vîmes près de la cime d'autres animaux que 2 papillons. L'un était une petite phalène grise qui traversait le premier plateau de neige, l'autre un papillon de jour qui me parut être le myrtille. Il traversait la dernière pente du Mont Blanc, environ à 100 toises au-dessous de la cime. J'ai quelquefois été témoin de la manière dont ces insectes s'engagent sur les glaciers. En voltigeant sur les prairies qui les bordent, ils s'aventurent au-dessus de la neige ou de la glace. S'ils perdent la terre de vue, ils vont toujours en avant et, ne sachant où se poser pour peu que le vent les soutienne, ils volent jusque sur les sommités les plus élevées où ils tombent enfin de fatigue et meurent sur la neige. De tous nos organes, celui qui est le plus affecté par la rareté de l'air, c'est celui de la respiration. C'est cette accélération forcée de la respiration qui est la cause de la fatigue et des angoisses que l'on éprouve à ces grandes hauteurs. Car en même temps que la respiration s'accélère, la circulation s'accélère aussi. Nous étions donc tous là, dans un état de fièvre qui explique et la soif qui nous tourmentait, et notre aversion pour le vin, pour les liqueurs fortes, et même pour toute espèce d'aliment. Il n'y avait que l'eau fraîche qui fit du bien et du plaisir, et il fallut du temps et de la peine pour allumer du charbon qui servit à fondre de la neige, seul moyen que nous eussions de nous procurer un peu d'eau, car si l'on mangeait de la neige, on augmentait son altération, bien loin de l'apaiser. Quelques-uns des guides ne purent pas supporter tous ces genres de souffrances et descendirent les premiers pour regagner un air plus dense. Cependant, lorsqu'on demeurait dans une tranquillité parfaite, on ne souffrait pas d'une manière sensible. La lassitude ne produit point les effets de la rareté de l'air. Souvent, dans ma jeunesse, en revenant de quelques grandes courses de montagne, je me suis trouvé fatigué au point de ne pouvoir plus me soutenir sur mes jambes, et cependant je n'éprouvais ni nausée ni défaillance, et je désirais des restaurants, bien loin de les avoir en aversion. J'ai même observé qu'il y a pour quelques individus des limites parfaitement tranchées, où la rareté de l'air devient pour eux absolument insupportable. J'ai souvent conduit avec moi des paysans, d'ailleurs très robustes, qui à une certaine hauteur se trouvaient tout d'un coup incommodés au point de ne pouvoir absolument pas monter plus haut. Et ni le repos, ni les cordiaux, ni le désir le plus vif d'atteindre la cime de la montagne ne pouvaient leur faire passer cette limite. Ils étaient saisis les uns de palpitations, d'autres de vomissements, d'autres de défaillance, d'autres d'une violente fièvre, et tous ces accidents disparaissaient au moment où ils respiraient un air plus dense. J'en ai vu, quoique rarement, que ces indispositions obligeaient à s'arrêter à 800 toises au-dessus de la mer, d'autres à 1200, plusieurs à 1500 ou 1600. Pour moi, de même que la plupart des habitants des Alpes, je ne commence à être sensiblement affecté qu'à 1900 toises, mais au-dessus de ce terme, les hommes les plus exercés commencent à souffrir lorsqu'ils se donnent un mouvement un peu accéléré. La nature n'a point fait l'homme pour ces hautes régions. Le froid et la rareté de l'air l'en écartent, et comme il n'y trouve ni animaux, ni plantes, ni même des métaux, rien ne l'y attire. La curiosité et un désir ardent de s'instruire peuvent seuls lui faire surmonter pour quelques instants les obstacles de tout genre qui en défendent l'accès. Je restais cependant sur la cime jusqu'à 3h30 après-midi, et quoique je ne perdisse pas un seul moment, je ne pus pas faire dans ces 4h30 toutes les expériences que j'avais fréquemment achevées en moins de 3 heures au bord de la mer. J'eus du regret à partir sans avoir accompli tout mon projet. Mais il fallait absolument prendre de la marge pour être assuré de passer avant la nuit les mauvais pas que nous avions à franchir. D'ailleurs, j'emportais l'espérance de réparer ces omissions dans un site à la vérité moins élevé, mais plus commode, et qui est cependant beaucoup plus haut qu'aucun sur lequel on n'eût jamais tenté de semblables expériences. On verra dans le voyage au col du géant jusqu'à quel point ces espérances ont été réalisées. Je quittais, quoiqu'avec bien du regret, à 3h30, ce magnifique belvédère. Je vins en 3/4 d'heure au rocher qui forme l'épaule à l'est de la cime. Je descendis beaucoup plus aisément que je ne l'avais espéré. La neige n'était ni trop dure, ni trop tendre, et comme le mouvement que l'on fait en descendant ne comprime point le diaphragme, il ne gêne point la respiration et l'on ne souffre point de la rareté de l'air. D'ailleurs, comme cette pente est large, éloignée des précipices, il n'y a rien qui effraie ou qui retarde la marche. Mais il n'en fut pas ainsi de la descente qui, du haut de l'épaule, conduite au plateau sur lequel nous avions couché. La grande rapidité de cette descente, l'éclat insoutenable du soleil réverbéré par la neige qui nous donnait dans les yeux, la rendait infiniment pénible. D'ailleurs, autant la dureté de la neige avait rendu le matin notre marche difficile, autant sa mollesse, produite par l'ardeur du soleil, nous incommodait le soir, parce qu'au-dessous de la surface ramollie, on trouvait toujours un fond dur et glissant. Comme nous redoutions tous cette descente, quelques-uns des guides, pendant que je faisais mes observations sur la cime, avaient cherché quelque autre passage, mais leurs recherches furent inutiles. Il fallut suivre, en descendant, la route que nous avions suivie en montant. Cependant, grâce aux soins de mes guides, nous la fîmes sans aucun accident, et cela en moins d'une heure et quart. Là, nous passâmes auprès de la place où nous avions sinon dormi, du moins reposé la nuit précédente, et nous poussâmes encore une lieue plus loin jusqu'au rocher auprès duquel nous nous étions arrêtés en montant. Je me déterminai à y passer la nuit. Je fis tendre la tente contre l'extrémité méridionale de ce rocher dans une situation vraiment singulière. C'était sur la neige, sur le bord d'une pente très rapide qui descend dans la vallée de neige que domine le dôme du Goûter avec sa couronne de sérac et qui est terminée au midi par la cime du Mont Blanc. Au bas de cette pente régnait une large et profonde crevasse qui nous séparait de cette vallée et où s'engloutissait tout ce qu'on laissait tomber des environs de notre tente. Nous avions choisi ce poste pour éviter le danger des avalanches et pour que les guides trouvant des abris dans les fentes de ce rocher, nous ne fussions pas entassés dans la tente comme nous l'avions été la nuit précédente. Je m'occupais dans la soirée à observer le baromètre. Je m'amusais ensuite à contempler l'amas de nuages qui flottaient sous nos pieds, au-dessus des vallées et des montagnes moins élevées que nous. Ces nuages offraient des formes extrêmement bizarres, des tours, des châteaux, des géants, et paraissaient soulevés par des vents verticaux qui partaient de différents points des pays situés au-dessous. Par-dessus tous ces nuages, je voyais l'horizon liseré d'un cordon composé de deux bandes, l'inférieur d'un rouge noirâtre de sang figé, la supérieure plus claire et d'où semblait s'élever une flamme d'une belle aurore, inégale, transparente et diversement nuancée. Nous soupâmes ensuite, gaiement et de très bon appétit, après quoi je passai sur mon petit matelas une excellente nuit. Ce fut alors seulement que je jouis du plaisir d'avoir accompli ce dessein, formé depuis 27 ans, savoir dans mon premier voyage à Chamonix en 1760. Projet que j'avais si souvent abandonné et repris, et qui faisait pour ma famille un continuel sujet de soucis et d'inquiétudes. Cela était devenu pour moi une espèce de maladie. Mes yeux ne rencontraient pas le Mont Blanc que l'on voit de tant d'endroits de nos environs sans que j'éprouvasse une espèce de saisissement douloureux. Au moment où j'y arrivais, ma satisfaction ne fut pas complète. Elle le fut encore moins au moment de mon départ. Je ne voyais alors que ce que je n'avais pas pu faire. Mais, dans le silence de la nuit, après m'être bien reposé de ma fatigue, lorsque je récapitulais les observations que j'avais faites, lors surtout que je me retraçais le magnifique tableau de montagne que j'emportais gravé dans ma tête, et qu'enfin je conservais l'espérance bien fondée d'achever sur le col du géant ce que je n'avais pas fait et que vraisemblablement l'on ne fera jamais sur le Mont Blanc, je goûtais une satisfaction vraie et sans mélange. Le 4 août, quatrième jour du voyage, nous ne partîmes que vers les 6 heures du matin. Nous vînmes dans une petite heure à la cabane. Nous fûmes ensuite obligés de descendre une pente de neige inclinée de 46 degrés et de traverser une large crevasse sur un pont de neige si mince qu'il n'avait au bord que 3 pouces d'épaisseur. Un des guides, qui s'écarta un peu du milieu où la neige était plus épaisse, enfonça une de ses jambes à faux. À 1 heure de marche au-dessous de la cabane, nous rencontrâmes des crevasses qui s'étaient ouvertes sur notre route et pour les éviter, il fallut descendre une pente de 50 degrés. Nous trouvâmes le glacier de la côte changé par la chaleur de ces 2 jours, au point de ne pouvoir pas reconnaître la route que nous avions suivie, et plus difficile encore à traverser qu'il ne l'était en montant. Les crevasses s'étaient élargies, les ponts s'étaient rompus, souvent, ne trouvant point d'issue, nous fûmes obligés de revenir sur nos pas. Plus souvent encore, il fallut nous servir de l'échelle pour traverser des crevasses qu'il eût été impossible de franchir sans son secours. Tout près d'arriver au port, le pied manqua à un des guides, qui glissa jusqu'au bord d'une fente où il faillit à tomber et où il perdit un des piquets de ma tente. Dans ce moment d'effroi, un énorme glaçon tomba dans une grande crevasse avec un fracas qui ébranla tout le glacier et fit trembler toute la caravane. Enfin, à 9h30, nous abordâmes à la montagne de la côte, très contents de nous retrouver sur un terrain que nous ne craignions pas de voir s'enfoncer sous nos pieds. Je rencontrai là M. Bourrit, qui voulait engager quelques-uns de mes guides à remonter sur le champ avec lui. Mais ils se trouvèrent trop fatigués et voulurent aller se reposer à Chamonix. Nous descendîmes tous ensemble gaiement au prieuré, où nous arrivâmes pour dîner. J'eus un grand plaisir à les ramener tous, sains et saufs, avec leurs yeux et leurs visages dans le meilleur état. Les crêpes noires dont je m'étais pourvu et dont nous nous étions enveloppés le visage nous avaient parfaitement préservés au lieu que nos prédécesseurs étaient revenus presque aveugles et avec le visage brûlé et gercé jusqu'au sang par la réverbération des neiges. Notre arrivée fut tout à la fois gaie et touchante. Tous les parents et amis de mes guides venaient les embrasser et les féliciter de leur retour. Ma femme, ses sœurs et mes fils, qui avaient passé ensemble à Chamonix un temps long et pénible dans l'attente de cette expédition, plusieurs de nos amis qui étaient venus de Genève pour assister à notre retour, exprimaient dans cet heureux moment leur satisfaction que les craintes qui l'avaient précédée rendaient plus vives, plus touchantes, suivant le degré d'intérêt que nous avions inspiré. Je passai encore le lendemain à Chamonix pour quelques observations comparatives, après quoi nous revînmes tous heureusement à Genève, d'où je revis le Mont Blanc avec un vrai plaisir, et sans éprouver ce sentiment de trouble et de peine qu'il me causait auparavant.